Partageons la prière d'illumination avant d'ouvrir les Écritures. Toi qui es aux cieux, au-delà des cieux, au-delà des yeux, toi qui vis en chacun de nous, qui suscite la vie et ressuscite l'amour, viens, mon Dieu, nous toucher. Viens nous bouger pour que nos paroles deviennent la tienne. Nous ne sommes pas seuls face à l'histoire. Nous ne sommes pas seuls face aux défis de demain. Nous ne sommes pas seuls face aux malheurs d'hier. Aujourd'hui, maintenant, mon Dieu, nous nous ouvrons à toi comme des livres ouverts. Viens y lire nos histoires pour les interpréter. Viens y lire nos vies pour en révéler la beauté et le secret. Viens y bénir nos ratures, nos contresens, nos fautes. Car ta parole, cette parole que nous allons partager, est la grammaire de nos jours. Amen.
Lecture de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 15 à 20. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen.
Pour ceux qui ont lu le journal hier, ils ont vu que le titre pour la prédication de ce matin, c'est la correction fraternelle. Généralement, on parle plutôt de pardon. C'est rare de parler de la correction fraternelle. Mais vous connaissez aussi les expressions « non-assistance à personne en danger »,« délit de fuite »,« devoir d'ingérence ». Vous connaissez ces notions de que l'actualité régulièrement met à l'honneur, hélas. Mais connaissez-vous la correction fraternelle dont parle le Christ dans l'évangile de Matthieu ? Non-assistance à personne en danger, délit de fuite. On redécouvre cet impératif moral, ne pas laisser quelqu'un en danger sans réagir. Et l'actualité nous livre quelques exemples, hélas, à contrario. Je pense, par exemple, aux chrétiens d'Irak, qui étaient menacés de mort par les djihadistes s'ils ne se convertissaient pas à l'islam, chassés de leurs terres, ne pas les soutenir, ne pas intervenir serait criminel. Et celui qui a alerté l'opinion mondiale, ça a été le pape François. Les USA bombardent les bases de l'État islamique en Irak et du Levant. La France envoie une aide humanitaire, accueille des réfugiés, chrétiens, irakiens, comme la Suisse d'ailleurs. Mais en même temps, les Français arment les Kurdes contre les djihadistes. La non-assistance à personne en danger serait de ne rien faire. Les sommets de la Terre constatent régulièrement les dangers écologiques qui menacent la planète dans laquelle nous vivons, et donc les générations futures. Effet de serre, eau potable, développement non durable, la non-assistance à planète en danger serait catastrophique pour l'avenir. Des faits divers mettent en scène régulièrement des agressions. On lit ça dans les journaux, à la radio, à la télévision, où personne ne réagit. Regarde ailleurs. Et je regardais encore, mais ça se passe en France, hein, pas en Suisse, des informations sur une vidéo de surveillance, quelqu'un qui se faisait agresser dans une station d'essence. Et les gens qui étaient à côté continuaient à remplir et puis partir comme si de rien n'était. Non assistance à personne en danger. On regarde ailleurs. Il nous est arrivé de reprendre notre voiture sur un parking bien éraflé par un conducteur indélicat qui n'a même pas pris la peine de laisser une carte de visite. On pourrait appeler ça le délai de fuite. Et le délit de fuite commence comme ça. Dans notre évangile, Jésus semble déjà poser les fondations du devoir d'assistance. Lorsque ton frère est en danger, à cause du péché, ici dans ce texte, et c'est vraiment dangereux de s'installer dans le péché, c'est ton devoir de lui porter secours en l'aidant à changer. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. Et Jésus va encore plus loin. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Bernard Kouchner. C'est le French Doctor. Les médecins sans frontières avaient popularisé cette expression au moment de la guerre des Balkans, pour justifier l'intervention européenne au Kosovo en 1999. On ne peut pas laisser chaque pays mener la politique qu'il veut sous prétexte qu'il est libre. Il y a parfois le droit et le devoir de s'ingérer dans les affaires d'autrui au nom de notre humanité commune. Sinon, c'est le règne de l'individualisme où personne ne sait pas, même dans la rue, qui est son voisin et ce qu'il fait. Il y a des immeubles ou des rues dans lesquelles on vit juxtaposés sans se connaître les uns les autres. Farouchement, on est replié sur la fameuse liberté des gens qui font ce qu'ils veulent. Sous-entendu, en fait, je m'en fiche et je ne veux pas me mêler des affaires des autres. En fait, c'est ça. Pour Jésus, vivre ensemble, ce n'est pas vivre juxtaposés les uns à côté des autres. C'est me sentir un peu responsable de ce que devient l'autre. Et parfois cela va jusqu'au devoir d'ingérence. Par exemple, si on se sentait un peu plus solidaire de ce que vivent les couples amis autour de nous, on pourrait parfois intervenir avant qu'ils se séparent. Car cela se voit quand un couple va mal. Mais on n'ose pas parfois. Alors que l'amitié, l'affection que nous pouvons avoir pour les autres, c'est de s'ingérer dans quelque chose qui part à la dérive. Et Jésus va encore plus loin que l'ingérence. Correction fraternelle, c'est l'expression consacrée pour parler de la démarche que propose Jésus pour les théologiens. Démarche, en fait, qui est très réaliste. D'abord, il y a un constat que le péché existe bien dans nos assemblées et communautés d'église. Si ton frère a commis un péché, vous voyez, Jésus est très réaliste. Il sait bien que les chrétiens, les humains, ne seront pas forcément meilleurs que les autres. Il ne rêve pas d'une communauté de purs, de gens parfaits, mais il va essayer de donner une procédure pour tenter de résoudre les difficultés qui naissent tôt ou tard dans une paroisse, dans un groupe d'église, dans une famille ou dans la vie sociale. Et cette procédure, c'est la correction fraternelle. En quoi consiste-t-elle ? D'abord, avoir l'autre comme un frère, une sœur. Même s'il a commis un péché grave, c'est d'abord un enfant de Dieu pour lequel le Christ est mort. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Quoi qu'il ait fait, même le pire, il reste mon frère, ma sœur en humanité. De plus, continuer à l'appeler frère m'oblige à me souvenir que moi aussi je suis pécheur. Ce n'est donc pas pour lui faire la leçon, la morale, puisque je serai meilleur, qu'il faut lui parler, mais c'est pour ne pas le laisser en danger. Un danger spirituel, un danger humain, sans réagir. C'est donc dans un climat d'amour et non de jugement qu'il nous est demandé d'intervenir. Tout l'évangile nous parle justement de tendre la perche aux pécheurs et non de leur mettre la tête sous l'eau. Avant le passage d'aujourd'hui, c'était la parabole de la brebis perdue. Gardez-vous de mépriser quiconque, soyez comme le berger qui court à la recherche de la brebis perdue. Votre Père ne veut qu'aucun se perde. Et juste après ce texte, Jésus va demander à Pierre de pardonner 70 fois 7, avant de déplorer l'attitude du serviteur impitoyable et sans cœur qui ne veut pas remettre une dette à un compagnon. Voyez, c'est dans un climat d'amour qu'il nous est demandé d'intervenir. On a le droit de faire une remarque à quelqu'un que si on voit en lui un frère à aimer. Mais comme il n'y a pas d'amour sans vérité, il faut faire la vérité sur les comportements et les paroles qui blessent. Pour cela, Jésus établit avec tact une progression. Seul à seul d'abord, avec discrétion pour que le coupable puisse garder sa réputation, son honneur, en changeant. Ensuite, à deux ou à trois, pour éviter les jugements trop subjectifs où l'on aurait pu se tromper d'appréciation, et aussi pour trouver à plusieurs des arguments qui pourraient convaincre davantage, et cela permet aussi d'éviter la précipitation, l'arbitraire. On a tendance à aller trop vite, à porter un jugement. Enfin, devant toute l'Église, et c'est ce que disait Jean Chrysostome, qui refuse la communion à l'empereur. C'était osé, hein ? Il refuse la communion à l'empereur, vous savez pourquoi ? Parce qu'il revient des jeux du cirque. Il a du sang sur les mains. C'est un devoir d'amour que de l'exclure de la communion. Ou plutôt de lui révéler qu'il s'est lui-même exclu de la communion, pour qu'il change de vie. S'il refuse, considère-le, dit l'Évangile, considère-le comme un païen ou un publicain. Alors, souvent, ce que j'ai constaté quand on lit cette phrase, on se trompe. En fait, cette phrase signifie qu'il faut considérer l'autre comme quelqu'un à évangéliser de nouveau, quelqu'un qui s'est placé de lui-même en dehors de la bonne nouvelle et qui a besoin de se convertir à nouveau. Quel péché public peut justifier d'aller jusque-là? Alors j'ai cité Jean Chrysostome et l'empereur revenant des Jeux du cirque. On pourrait penser à ceux qui, en Sicile ou chez nous, dans la mafia, font pourtant semblant de prier à l'église. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les films. On voit les mafieux qui vont baptiser le petit. C'est toujours un petit qu'on va baptiser. On va tous ensemble. Et à peine sorti de la porte, on se canarde un coup de pistolet. On pourrait penser aux extrémistes aussi de toute tendance, hein, islamistes, chrétiens, politiques, où la haine est utilisée comme alibi de défense de l'identité. Le tout est d'éviter la non-assistance à personne en danger et le délai de fuite. C'est pratiquer la correction fraternelle, nous dit l'Évangile. J'ai été en visite dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Ganagobi, en Provence. Et les moines, en fait, dans cette abbaye, pratiquent cette hygiène relationnelle. Et ils ont intérêt, parce que quand on est enfermé contre homme pendant de longues années, il y a besoin d'avoir une hygiène relationnelle à jour. À la réunion du chapitre, chacun peut battre sa culpe, comme on dit en français, sa culpa, c'est ce, mea culpa, où le père abbé peut reprocher à chacun ce qu'il pense légitimement d'avoir à lui dire et de l'aider à vivre en communion avec les autres. Dans cette abbaye, j'ai lu cette phrase qui m'a marqué, et je l'ai noté dans mon petit carnet, quand on peut amender quelqu'un et qu'on néglige de le faire, on se rend complice de sa faute. Quand on peut amender quelqu'un et qu'on néglige de le faire, on se rend complice de sa faute. Alors, pour terminer, je voudrais vous exhorter à vous entraîner à pratiquer la correction fraternelle, donnée et reçue, en famille, en couple, au travail, entre amis. C'est exigeant, mais l'amour véritable est à ce prix. Et j'en sais quelque chose, vous savez, je suis de culture méditerranéenne, et dans la culture méditerranéenne, on ne dit jamais les choses directement. On tourne et on tourne, comme le cours du Nil, hein. Il faut un certain temps avant. Et j'ai découvert que dans certaines cultures, au départ ça m'a choqué, il y a des vérités qui sont lancées. Mais quand ces vérités sont lancées avec amour et tendresse, elles nous font grandir, elles nous changent et elles nous marquent. Puisse le Seigneur nous secouer pour enlever ce qui nous pèse, nous alléger et nous rendre aimants. Amen.